Bonjour, ici Raymond Beaugrand-Champagne des Rencontres spirituelles. Aujourd'hui, nous allons parler non seulement de saints, mais aussi de gens qui ont vécu, au dire des observateurs, des gens qui les ont connus comme des saints et ne sont pas canonisés. En particulier, je commence très brièvement avec la simple histoire très brève du frère Antoine Kowalczyk. C'est un oblat de Marie Immaculée qui est mort au Canada. C'était un Polonais du diocèse de Poznań en Pologne. Il est né là-bas le 4 mai 1866. Et puis, il a travaillé tout d'abord en Saxe, en Allemagne, et à Hambourg, où il a reçu d'ailleurs le sacrement de confirmation. Alors, il parlait donc le polonais et l'allemand. Et il voit, au moment de sa confirmation, un évêque. Pour la première fois, il venait donc d'une région très simple. Et à 24 ans, il trouve que c'est ennuyant, le monde. Il n'aime pas les plaisirs du monde. Et il trouve que le monde met sa foi de bon polonais en péril. Alors, il écrit, « J'ai demandé souvent à mon père la permission d'entrer en religion, mais il me la refusait toujours. » Et un bon jour, en suivant les conseils de son confesseur, il dit, « J'écrivis de nouveau à mon père, et j'ajoutais que j'étais incapable, en restant dans le monde, d'aimer le bon Dieu comme il faut. » C'était un frère convert, un homme très très simple. Son père lui a dit, « Bien alors, fais ce que tu veux. » Il est entré au noviciat en Hollande, donc il a appris le hollandais, à Saint-Gerlach. Et j'aime bien la question que lui a posée le père maître. Pourquoi voulez-vous devenir religieux? Manquez-vous de travail ou avez-vous l'intention qu'on vous fasse vivre? Je trouve que c'était un père maître assez étonnant, n'est-ce pas, pour le tournant du siècle 1900. Et alors, il lui dit... Il lui a répondu, « J'ai du travail, mon père, mais une dame m'a dit qu'en religion, je pourrais servir le bon Dieu comme il faut. » Et ce simple ouvrier entre donc en religion. Et à plusieurs reprises, dès le début de sa vie religieuse, le frère Antoine Kowalczyk exprime à son supérieur le désir de se donner aux missions étrangères. Et c'est comme ça qu'à l'automne de 1895, il a la certitude... un moment que son désir des missions lointaines va se réaliser, et c'est l'Ouest canadien. Dès le mois de mai 1896, il a 30 ans, n'est-ce pas, il s'embarque pour l'Amérique du Nord. Il sera employé au lac Labiche à diriger la machine à vapeur qui actionne le moulin et la scierie. Je signale ça parce qu'il y a des gens qui s'imaginent que les frères Convert... ça doit être épouvantablement ennuyant, mais pas du tout. Pour un homme versé dans les travaux manuels, qui aime réparer aux besoins des objets, je me souviens, mon fils, moi, adorait réparer un grille-pain, réparer un malaxeur, réparer toutes sortes de choses, il avait le don de ces choses-là, il aimait ça. Et alors donc, notre frère Antoine Kowalczyk, était très heureux à diriger la machine à vapeur qui actionne le moulin et la scierie au lac Labiche. Là, il y a une nouvelle obédience, c'est-à-dire on lui demande de faire autre chose, une nouvelle obédience, ça s'appelle comme ça dans le monde religieux, n'est-ce pas? Lui demande de venir prendre soin des appareils de chauffage, cette fois-là, du Juniora Saint-Jean d'Edmonton. Et puis, à ses premiers travaux, bien le frère Antoine en ajoute bien d'autres. Pendant les 36 ans consacrés à toutes les générations de jeunes à qui le Juniora des Oblats de Marie Immaculée permettra d'étudier leur vocation. Vous savez que les Oblats de Marie Immaculée ont fait un travail absolument étonnant dans l'Ouest. Bon, on leur a reproché certaines choses récemment, je passe outre, mais il faut pas oublier aussi les gestes de générosité extraordinaires des Oblats de Marie Immaculée dans l'Ouest. Et le 3 juillet 1947, avant de se rendre à Saint-Albert, étonnant, Saint-Albert, mais oui, c'est mon oncle, le frère aîné de ma mère, mon Dieu, qui est né, lui, vers 1862-63, était parti à la fin du siècle pour fonder Saint-Albert avec des amis. Eh bien, je n'avais pas remarqué ça. Alors, le 3 juillet 1947, avant de se rendre à Saint-Albert, où il doit suivre les exercices de la retraite annuelle, il aurait confié à quelques compagnons, « Ce sera ma dernière retraite. » Et le troisième jour, bien, on le trouve foudroyé par une paralysie du côté droit et incapable de parler d'une manière intelligible. Comme vous voyez, c'est une vie très simple. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital d'Edmonton. Il a reçu l'onction des malades. Il expirait 2 jours plus tard, le 10 juillet, je dis bien le 10 juillet, à l'âge de 81 ans, en 1947. Une croix de pierre blanche qui indique l'endroit exact où repose ce bon frère Antoine. La simplicité de ce monument, elle reflète bien celle que soulignait enfin toute l'histoire de sa vie, une vie des plus simples. Et depuis que sa tombe est fermée, cette réputation de sainteté n'a fait que grandir dans l'Ouest. Elle s'étend même à l'étranger. Et même, on a introduit sa cause de béatification, c'était promulgué le 14 octobre 1979, au cours d'une concélébration solennelle présidée par Mgr Joseph McNeil, qui était l'archevêque d'Edmonton. C'est vous dire, et je tiens à le signaler, c'est pour ça que j'ai commencé avec un saint très simple, que les simples travaux ordinaires, bien faits, par quelqu'un qui est plein d'amour et de fidélité, de tendresse, de compréhension des autres, ça suffit. C'est pas nécessaire de faire des miracles et des choses absolument fantastiques. Et c'est ainsi que je vais entreprendre de vous parler quelques instants d'Ève Lavallière. Ça vous dit probablement quelque chose à plusieurs d'entre vous, Ève Lavallière. C'était la plus grande actrice au tournant du siècle. Actrice à Paris. Elle a vécu de 1866, donc elle est née la même année que notre frère Antoine Kovalchik dont on vient de parler, année faste, 1866, et elle est morte, elle, non pas en 1947, âgée, mais elle est morte simplement en 1929. Et c'était une actrice qui était vénérée par le grand public. Elle était adulée par tout le monde. Dans sa jeunesse, il y a un drame épouvantable qui est survenu. C'est terrible. Ceux qui m'écoutent et qui me disent « Ah, j'ai eu une jeunesse terrible. Mon père était brutal. Ma mère était comme ci, était comme ça. Je ne pourrai jamais faire quelque chose de ma vie. » Puis ils portent constamment ce drame en eux et ils ne cessent de se le répéter et ne cessent, au fond, de se diminuer à leurs propres yeux. Eh bien, voyez ce que de Lavallière a fait de sa vie. C'est absolument merveilleux. Elle, qui au début de sa jeunesse était si désespérée que ça l'a menée plusieurs fois au bord du suicide. Et puis, plus tard, elle a été malade. Elle a pratiqué le spiritisme. Ça l'a beaucoup déçue. Mais ce spiritisme fut à la base de sa conversion. Elle disait, c'est par le démon que je suis venu à Dieu. Et elle confiait ça à un des plus grands auteurs de théâtre de boulevard et le théâtre pour amuser les gens, mais qui était très recherché, Robert de Flers. C'est le 1er avril 1866, donc au matin de Pâques, qu'elle est née. Elle ne s'appelait pas Ève Lavallière, c'est un nom de théâtre. Elle s'appelait Eugénie Fénoglio. Elle est née à Toulon, dans le sud de la France. Son père était tailleur. C'était un joueur, un débauché, un alcoolique. Un homme extrêmement jaloux. Un homme brutal. C'était donc une atmosphère d'orage, de misère qui régnait au logis de cette petite Ève Lavallière, ou Eugénie Fénoglio. Et cette petite fille a eu une enfance maladive, sans tendresse. Elle a été accablée de punitions injustes. Pour échapper aux violences de son père, eh bien, sa mère et la petite fille arrivaient à se réfugier avec les autres enfants à Perpignan, non loin de l'Espagne, n'est-ce pas? Perpignan, c'est très joli ville. Et parce que sa mère était native de Perpignan. Un jour même, elle s'y est fixée. Elle a décidé de quitter son mari extrêmement brutal, qui était intolérable. C'était plus vivable. Mais son mari est venu la rejoindre. Mais ça n'a pas duré très longtemps. Il est retourné à Toulon, où il avait sa boutique de tailleur. Notre petite Eugénie, ou Ève Lavallière, était intelligente. Elle était appliquée. Elle se préparait sérieusement sa première communion. Elle a fait une excellente première communion, mais c'est tout. Elle était assez espiègle, c'est revenu à la surface, et bientôt Eugénie n'a pensé qu'à organiser dans une maison amie des représentations théâtrales. Elle s'intéressait déjà à ça. Elle se voyait actrice, costumière, metteur en scène. Elle était toute jeune. Et en 1881, à 15 ans, la famille est revenue à Toulon. Et 2 ans plus tard, un nouvel exode à Perpignan. Là, elle est devenue apprentie dans la mode. Mais écoutez bien ce qui lui est arrivé. C'est terrible. Car son père survenait de temps en temps, il était défiant, il était furieux. Et le dimanche 16 mars 1884, elle n'avait même pas 18 ans. À la suite d'une discussion, son père a tiré plusieurs coups de revolver sur sa femme qui s'est écroulée, morte. Et là, il a eu un geste menaçant envers notre petite Eugénie, qui était terrorisée. Mais finalement, il a dirigé son arme contre lui-même, puis il s'est suicidé devant elle. Elle était orpheline, dans un drame épouvantable. Ça a eu sur son système nerveux, évidemment, une répercussion profonde. Elle a eu des hallucinations qui hantaient ses nuits sans sommeil. Elle avait de très grands yeux sombres, c'est peut-être un peu à cause de ça, des yeux brûlants. Ça illuminait ses traits, qui étaient très fins, qui étaient très beaux. Elle avait un teint ambré qui plaisait beaucoup à l'époque. Elle avait une vivacité d'esprit étonnante. Elle était enjouée quand même, et son charme inné la rendait absolument irrésistible à la plupart des jeunes gens. Mais les difficultés se sont accumulées. Et Eugénie Fenoglio, ou bien Ève Lavallière, si vous préférez, qui voulait gagner sa vie, est entrée chez une modiste encore. Les assiduités du mari de sa patronne s'ajoutèrent aux importunités qu'elle devait subir de divers soupirants. C'était le harcèlement sexuel en règle. C'est pas d'aujourd'hui que les femmes ont à souffrir de ça de la part de tant d'hommes. Alors elle est partie pour Marseille, il lui est arrivé 1000 aventures. Elle aboutit à Nice, encore des aventures terribles. Et finalement, mais elle ne cédait jamais. Elle était, comme on dit, vierge, elle n'avait pas accepté quoi que ce soit. Et un passant s'est approché, l'a questionnée un jour qu'elle était à Nice, elle était découragée, assise sur un banc dans un parc. Il l'a reconduit chez sa tante à elle. Elle avait une tante à Nice, mais ça n'a pas marché parce que la tante ne voulait pas qu'elle entre dans sa maison, elle dont les parents étaient morts dans un drame épouvantable. Elle était trop belle parce qu'elle avait des fils, alors ça la gênait. Elle est allée chez un cousin, ça crée des problèmes. D'autres cousins couraient après elle. Elle ne savait plus où aller, elle était trop belle. Et alors, un voyageur de commerce est venu à elle et sans abuser, c'est-à-dire de sa candeur, il l'a amenée au restaurant puis à l'hôtel, mais il n'a rien fait. Et le lendemain, il l'a amenée au théâtre, puis parce qu'elle lui avait confié son attrait pour le théâtre qui datait de son enfance. Il l'a présentée au directeur d'une troupe qui était son amie, puis là, elle était engagée, puis là, c'était sa carrière, qui s'est dessiné de façon absolument extraordinaire, et vous verrez comme c'est fantastique. Notre Ève Lavallière, venons-y, devient actrice, enfin. Elle avait été respectée, comme je vous ai dit, jusqu'à cet âge-là, mais un quinquagénaire, c'est-à-dire un homme de 50 ans, comme vous savez, sans scrupules, a remarqué cette jeune actrice. Et sans réfléchir, elle a accepté le luxe qu'il lui offrait. Elle a cédé. Elle était fatiguée, d'ailleurs, de résister à tout le monde. Elle s'est dit, pourquoi pas céder à celui-là? Que de femmes tombent dans le panneau, hein? Mais bientôt, elle a abandonné la villa très coquette de Palavas, où elle était à la fois esclave et reine de cet homme, pour se rendre à Paris. Elle portait souvent des cravates flottantes qu'on appelle des lavalières, et c'est de là que vient son nom, de Ève Lavallière, au théâtre. Un professeur de diction, qui était frappé de ses aptitudes étonnantes, lui a donné des leçons à Paris, l'a fait entrer aux variétés. Le théâtre des variétés à Paris, c'était très 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 réputé dans ce monde un peu folichon là, de la fin du 19e siècle. Et en 1889, elle figurait dans la revue Paris Exposition, la grande exposition de Paris, sous le nom d'Ève Lavallière. Elle était au seuil du succès quand Samuel est devenu directeur de ce théâtre. Il l'a élu pour ami. Alors, on l'appelait le magnifique, car il aimait le faste. C'était un homme assez grandiose, mais il était bon, d'esprit cultivé. Il mêlait à sa vie, qui était assez facile, assez terrible sous certains aspects, il mêlait à ça des pratiques de piété. C'est assez particulier. Alors, sa liaison avec Ève, si elle fut coupable dans le sens des lois, même civiles de l'époque, mais surtout les lois religieuses, ça ne l'a pas empêché en 1895, lorsque Ève Lavallière est devenue mère d'une petite fille, d'une petite Jeanne, il lui a mis au cou une médaille de la Sainte Vierge. Alors c'est assez curieux, hein? Un amant assez riche qui quand même met une médaille de la Sainte Vierge au cou de sa maîtresse. Et alors, ses conseils éclairés ont aidé Ève Lavallière à poursuivre son ascension. Dans les coulisses, un jour, Ève a reçu sur la tête un lourd paquet de cordage. Il a fallu la trépaner, hein, et couper ses cheveux noirs. Et elle a dû les garder courts. Ça a même lancé une mode dans tout Paris. Les femmes se faisaient couper les cheveux parce qu'Ève Lavallière les portait courts. Pour vous dire l'importance, la réputation fantastique qu'elle avait, et après cette mise à l'écart forcée, bien, elle s'est rendue compte à la maison que Samuel la trompait. Alors, elle a refusé de reprendre avec lui la vie commune, mais ils ont continué à entretenir des relations de confiance, d'amitié, parce qu'au fond, il était bon, et elle était bonne. Mais cette déception l'a atteint profondément. Vous voyez le changement tout à coup qui commence à s'opérer. Quelqu'un pouvait écrire d'elle, elle joue des rôles de folle gaieté et c'est une mélancolique qui trouve la cloison mince entre la vie et la mort. Elle est toujours hantée par la mort, hein. À 18 ans, moins quelques jours, ses parents sont morts devant elle. Et ensuite, c'est souvent ses instincts de suicide. Mais elle allait de triomphe en triomphe. Sa santé n'était pas très forte, elle est tombée gravement malade, elle a dû être opérée. Ça l'a fait réfléchir. Et elle a dit, ce n'est pas de mourir que j'ai peur. Elle a dit ça à une religieuse qui la soignait. Je ne suis pas heureuse sur terre, ce qui me préoccupe c'est de faire une bonne mort. Si je suis une comédienne, je suis avant tout une chrétienne, et je veux finir comme telle. C'est assez étonnant, hein? Elle s'est confessée, elle a passé plusieurs jours dans le recueillement. Elle a assisté au chant d'un magnificat, n'est-ce pas, le chant de la Sainte Vierge, quand on voit ça dans Saint-Luc, et qu'on chante aux offices très souvent dans les églises. Elle a assisté au magnificat, qui célébrait sa guérison. Elle a déposé une rose rouge au pied de la statue de la Vierge, et au lendemain, des grandes représentations, d'ailleurs, où elle avait un succès fou. Et tous les hommes se rendaient à sa loge avec des bouquets de fleurs, et tout ça, c'était extraordinaire. Ben, elle envoyait volontiers à l'hôtel de Notre-Dame les fleurs dont sa loge débordait. Qu'est-ce qu'elle aurait pu faire avec des centaines de bouquets de fleurs? Et alors, sur différentes scènes, entre beaucoup d'autres pièces, elle recevait une certaine griserie des applaudissements, des bouquets, des poursuites amoureuses aussi sur ces hommes qui couraient après elle. Il y avait même, vous savez, des têtes couronnées qui la sollicitaient. Elle lançait avec un mot célèbre, n'est-ce pas, un énorme diamant un jour à la tête d'un maharaja qui courait après. Bon, disons qu'elle l'a dit, merde, je m'excuse de le dire sur les ondes. C'est incroyable, hein? Ça se dit aujourd'hui, n'est-ce pas, les acteurs et les actrices disent ça avant d'entrer en scène, hein? Pour au lieu de souhaiter bonne chance, ils se disent le mot de cambronne, comme on dit. Alors, un homme qui protestait de son attachement pour elle elle lui disait, donne-moi une preuve, ruinez-vous pour moi. Vraiment très audacieuse. Ni le plaisir, ni l'ivresse de la gloire ne lui procuraient la joie du cœur cependant, et elle voyait avec effroi sa jeunesse s'en aller. Et alors, elle a appris un jour la mort de son ami Samuel, qui était le plus cher de ses amis. Dans une maison au bord de la Tamise, à Londres, elle assistait à une soirée dansante, et autour de l'élégante et jolie Française qu'elle était, il se pressait une nuée d'admirateurs, puis à l'annonce de ce décès, elle leur a échappé, et grâce à l'obscurité du parc, elle s'est dirigée vers le fleuve. Elle avait le goût de se suicider parce que Samuel était disparu, c'était son seul ami dans tout ce tourbillon. Mais un invité a allumé une cigarette, puis elle a vu cette petite lueur, c'est la lumière de la cigarette. Elle a eu peur d'être reconnue, puis elle a regagné le salon. Elle l'a reconnue par après que cette simple petite lumière, la flamme du briquet, l'avait sauvée. En 1915, on la revoit à Paris. Elle fait la connaissance d'une jeune réfugiée belge de la guerre, de 19 ans, Léona Delbecq. C'est devenu sa confidente, son amie inséparable, une espèce de dame de compagnie, si vous voulez. Et après tant d'aventures, bien, Ève s'éprend du fameux comte Amédée Descartes. Descartes, n'est-ce pas? C'est majuscule A-R-S. Et leur rencontre a été un émerveillement. En dépit de ses origines fort modestes, puis des rôles très ambigus qu'elle avait joués sur la scène, Ève était, au dire de Francis de Croisset, très connu à l'époque, une petite princesse. Elle avait acquis un style, une élégance, et la famille Descartes a pris peur devant une alliance aussi disproportionnée entre le comte Amédée Descartes et cette petite Ève Lavallière. Et malgré les instances de cette actrice, eh bien, le comte lui a refusé l'entrée de sa clinique alors qu'il se mourait des suites d'une blessure de guerre. Et là, chassée finalement de cette espèce de paradis terrestre où elle vivait, Ève Lavallière à nouveau attendait de se donner la mort. Une circonstance où l'on peut voir une intervention peut-être surnaturelle l'en a empêchée. Puis là, elle est remontée sur les planches. Elle était ébranlée dans sa santé par le deuil qu'elle sentait jusqu'au fond d'elle-même. Elle était désireuse d'échapper au tumulte des boulevards. Elle a eu l'idée d'aller se reposer en Touraine avec son amie Léona. Et à la fin de 1917, elle est entrée en relation avec l'abbé Chastaignier, curé de Chanceaux-sur-Choisille. Et cet abbé Chastaignier, qui était simple et direct, lui avait dit, « Ah, quel dommage qu'une personne comme vous n'ait pas la foi. » Elle a répliqué, « Mais alors, qu'est-ce que la foi ?» Et alors, Ève Lavallière a rencontré ce prêtre, l'abbé Chastaignier. Elle lui raconte ses expériences de spiritisme, le pacte qu'à l'exemple de Faust, elle avait voulu conclure avec le démon pour reconquérir sa jeunesse, sa santé. Il lui avait été objecté que ce serait difficile, car, lui avait-on dit dans les milieux spirites, qu'elle était très protégée. Alors elle avait conclu que le démon n'existait pas. Et l'abbé Chastaignier lui avait répondu, « Eh bien, moi, je vous dis qu'il existe. Prenez garde de ne pas vous trouver en face de lui. » Et la saluant, il est remonté sur sa bicyclette. Les prêtres se promenaient à bicyclette en France en ce temps-là. Et elle est demeurée clouée par la stupeur en entendant ça. Il y a eu une lumière soudaine qui s'est faite dans son esprit. Et elle s'est dit, « Mais si le démon existe, Dieu existe alors. » Et s'il existe, qu'est-ce que je fais sur la terre? Qu'est-ce que je fais de ma vie si Dieu existe? C'est la question fondamentale. L'après-midi, Ève a commencé tout haut la lecture. Puis, elle a fait à son amie Léona, qui l'accompagnait, le récit de son enfance. Elle lui a parlé de sa première communion. Puis en revenant à Marie-Madeleine, elle a récité, en s'étonnant de sa mémoire, les passages d'Évangile qui s'y rapportent. Les belles scènes de Marie-Madeleine dans l'Évangile, c'est très beau.
Alors une atmosphère de gravité a développé toute la semaine. Et le dimanche 10 juin, elles retournèrent à la messe. Et pendant le déjeuner, Léona s'écria, « Je voudrais faire ma première communion. » Alors à son tour, elle a raconté ses premières années qui ont été très compliquées à cause de la guerre. Ça avait entravé son éducation religieuse. Et Ève l'écoutait avec émotion, puis elle a promis d'en parler au curé. Puis elle lui a dit, « Je serai ta marraine de première communion et je communierai avec toi. » Alors l'abbé Chastigny était tout heureux, s'est chargé d'instruire la jeune Belge, se disposait à partir, quand Ève a ajouté, « Et moi, monsieur le curé, j'ai promis à cette petite de communier avec elle. » Alors, elle a vu une hésitation sur la figure du prêtre, puis elle a dit, « Oui, je sais, je suis une pécheresse effrayante. Je n'ai pas vécu en chrétienne, mais j'espère qu'il m'est permis à moi aussi de revenir à Dieu. » Et alors, le prêtre lui a dit, « Mais le cas de Léona est simple. Vous, vous êtes Ève Lavallière. Votre vie a été publique. Et puis, vous avez fait du spiritisme. Il me faut en référer à l'archevêque. » Et alors, la cérémonie a été fixée au 19 juin, car l'archevêque permettait que tout, il a très bien compris. Et Ève a fait réciter son catéchisme à Léona, et elle l'a réappris en même temps. Et toutes les deux se disaient, on devrait réciter le chapelet. Et puis, pourquoi qu'on n'irait pas écouter les instructions du curé? Puis, ce 19 juin, bien, il pleuvait. Et dans l'église, on a préparé une espèce de messe mortuaire. Alors, on dirait, a déclaré Ève Lavallière, un enterrement qui se prépare. Et nous aussi, nous allons enterrer notre vie de pécheresse. Et la veille, elle avait demandé pardon à Léona des mauvais exemples qu'elle lui avait donnés, des peines qu'elle lui avait causées. Elle était sortie du confessionnal transfigurée. Et revenant à la Sainte Table, Ève a dit Léona, c'est les paroles mêmes, n'était plus de ce monde. Elle avait communié pour la première fois depuis si longtemps. Que de fois j'ai assisté à ça, hein, des gens qui se convertissent, et on les amène au confessionnal et on les voit revenir de la table. C'est extraordinaire. Hein. Je me souviens de quelqu'un qui me disait qu'il avait comme des ailes. Hein. Et maintenant, Ève partait chaque matin pour la messe, ses heures s'écoulaient en prière, en lecture pieuse, en acte de charité où elle s'occupait des autres. Et des gens, à Paris, très importants, disaient, c'est une fantaisie. C'est un nouveau rôle qu'elle a trouvé, et elle le joue rudement bien. Et le curé lui-même n'osait croire qu'il y avait un revirement aussi absolu chez elle. Se demandait, c'est pas possible, une si grande conversion. Surtout quand elle parlait de renoncer au théâtre. Alors là, le curé l'engageait à pas prendre de décision trop prématurée de quitter une carrière aussi fantastique. Puis là, elle a décidé d'annuler un grand contrat qu'elle avait pour aller jouer aux États-Unis et au Canada. Au Québec, quoi. Elle disait, laissez-moi seule. J'ai besoin de prier. Puis là, elle disait à Léona, cette lettre de résiliation, d'annulation, vois-tu, ça a été dur à écrire. C'est la plus dure encore à envoyer. Car elle me fait mourir au théâtre. Ne plus jouer. J'écoutais hier Monique Mercure, une vieille amie d'enfance que j'ai bien connue. J'étais très amie de Pierre Mercure et puis son mari. Et alors, Monique disait combien elle avait un plaisir extraordinaire encore à 64, 65 ans de jouer au théâtre. Et on voyait dans son regard, je la connais bien Monique, on voyait dans son regard une joie entière, hein, c'est formidable. Alors Ève Lavallière a tu sacrifié ça. Elle dit, jamais je n'aurais cru qu'on pouvait connaître le grand amour sans volupté. Hein. C'est ça la recherche spirituelle, c'est ça quand quelqu'un tombe amoureux, comme on dit, de Dieu. Jamais je n'aurais cru qu'on pouvait connaître le grand amour sans volupté. Mais je sais maintenant, pour l'avoir éprouvé, que les suprêmes ivresses ne tiennent pas à la chair. Et Ève cherchait à sa vie un sens définitif, elle a pensé au cloître. Ça aurait été pour elle un refuge contre les tentations, un asile de recueillement, mais le curé n'y croyait pas. Il ne croyait pas sa vocation religieuse. Et d'autant plus, il lui disait de s'occuper de sa fille. Hein. Parce que sa fille se conduisait plus ou moins bien, c'était une jeune adulte à ce moment-là. Et elle est allée à Lourdes, comme lui recommandait le prêtre, l'abbé Chastigny. Puis finalement, elle s'est rendue à Paris pour vendre son hôtel particulier, car elle était très riche. Elle a vendu des vêtements somptueux, des bijoux, des tas de toilettes fantastiques. Puis elle était suivie, évidemment, de son chien qui gémissait, qui sentait qu'il y avait quelque chose qui se passait. Elle a parcouru une dernière fois son luxueux hôtel particulier, puis, vêtue d'une robe très simple, ses bagages réduits au minimum, elle est montée dans le train. Puis elle est allée à Lourdes. Elle dit, je pars sans regret, sans détourner la tête. Je pars le cœur rempli de mes devoirs, avec l'appui réel de Dieu. Et cela, c'est une joie que personne ne peut comprendre et que personne ne m'enlèvera. À Lourdes, Ève Lavallière était venue pour se recueillir, parce que c'était un règlement de vie où la prière avait la plus grande partie du temps. Elle s'est imposée un lever matinal, l'obligation du travail, d'aider les autres, le chemin de croix à pieds nus dans la neige. Étrange, hein, c'est de les convertir. Hein. Elle a fait une neuvaine étrange de bain dans la piscine glacée. Vous savez qu'il y a des piscines à Lourdes où on se baigne pour obtenir des guérisons physiques, mais elle, c'était pour une guérison morale, mais aussi pour sa santé qui n'était pas très bonne. Elle pratiquait des privations, hein, selon un vœu personnel de pauvreté qu'elle avait prononcé. Et alors, elle disait qu'elle préférait mourir que de retomber dans sa vie passée. Son désir du couvent, du monastère, se faisait plus intense, et la conversion de ses amis, et surtout de son enfant, de sa fille, la hantait. Et là, elle est allée voir la prieure du Carmel d'Avignon, qui a été tentée de se laisser fléchir par une telle pureté d'intention chez Ève Lavallière, mais s'est rendue compte que son tempérament instable ne pourrait pas s'accommoder de la vie monastique très exigeante. Alors la prieure lui a refusé tout doucement, avec beaucoup de gentillesse. Et Ève, désespérée, a amené son amie Léona dans une chapelle voisine. Elle a dit, comment, quand je ne voulais pas de lui, il me poursuivait. Et maintenant que je ne veux que lui, il me repousse. Je lui adresserai mon ultimatum. Alors, contemplant Saint-Sacrement exposé, elle s'est sentie tout à coup très apaisée. Mais dans ses échecs, elle a vu l'expression de la volonté de Dieu, puis elle n'a jamais cessé de combler d'aumônes les cloîtres dont elle n'avait jamais pu franchir le seuil. Elle a quitté Lourdes, puis parce que les gens la reconnaissaient, mais à Paris, elle a dîné dans la cuisine de son hôtel particulier avec ses anciens domestiques, car elle avait de nombreux domestiques. Et puis là, Léona, son amie, a dû aller à l'hôpital et Ève l'a suivie. Elle gâtait les malades. Elle s'est attachée tout particulièrement à une jeune tuberculeuse qui était simple pupille, comme on dit, de l'assistance publique, donc une petite orpheline. Et à l'époque, une petite orpheline, pupille de l'assistance publique, on méprisait ça, c'était ridicule, mais c'était comme ça. Et alors, elle a conquis une famille très noble, la comte famille d'Elbé, par sa simplicité, sa distinction, sa fantaisie d'artiste, surtout sa foi brûlante. Et puis, elle est allée à la campagne, elle esquissait sur le sable des pas de danse, elle contait des anecdotes amusantes. Elle jouait même une scène d'une pièce de théâtre qu'on appelait « Le Roi ». Au cours d'une promenade, elle a fait une chute sur des rochers. Ça lui a occasionné de terribles souffrances. Le médecin a décelé une néphrite chronique incurable, mais c'était une condamnation à mort, sans savoir la date d'échéance. Et alors, elle écrit « Jésus veut tout pour lui, et avec quel amour on lui donne tout, tout, tout. » Il a refait mon cœur au contact de son corps divin, c'est-à-dire de l'Eucharistie, de l'hostie. Il a refait mon cœur au contact de son corps divin que je reçois chaque jour. Et mon âme de misère s'adoucit et tremble à son contact, comme un oiseau frilé que l'on tient dans la main. Avec Jésus, il semble qu'on pourrait porter le monde. Sans lui, un grain de sable nous fait trébucher. Et alors, en septembre 1920, après être allée à Marseille, à Toulon, à la Sainte-Baume, à Nice, à Sanary, à Paris, elle s'installe à Thuyères, dans les Vosges. Sur les bords de la route, comme des nomades, nous camperons là, prêtes à partir au moindre signe, dit-elle. Alors, c'est une maisonnette qui est bâtie entre un jardin potager et un verger. C'est égayé de roses. Ça reçoit le nom de Bethany. Il y a un bois tout près. Le calme y règne. Le soleil la réchauffe. La vue est magnifique. Et Ève embellit l'église du village. Elle dote la paroisse d'une bibliothèque. Elle monte une chorale. Mais il y a des potins qui circulent parce qu'on se dit, hey, c'est Ève Lavallière. Et les curieux affluent. Le curé doit devoir les écarter. Là, il y a des humiliations, souffrances, privations surnaturelles. Puis il y a les journalistes qui viennent. Les journalistes, c'est fatigant, ça aussi. Et le 19 septembre 1920, elle devient dans l'ordre, dans le tiers-ordre franciscain, elle prend le nom de sœur Ève-Marie du Cœur de Jésus. Et elle aime porter ce vêtement. Mais elle est toujours laïque et des larmes coulent de ses grands yeux en lisant l'Évangile. Il y a des prières admirables qui s'échappent de sa plume, on en a retrouvé beaucoup, et une que j'aime beaucoup, c'est « Sainte face de mon Dieu », c'est-à-dire « Sainte face de Jésus ». « Je vous adore, vous m'avez tiré du néant pour votre gloire, et j'ai corrompu l'ouvrage de vos mains, Seigneur. Je jette ma misère dans l'océan de votre sainteté. Faites-moi vivre de moi-même, je ne sais que mourir. » Et Monseigneur le Maître, qui la connaissait, dira « Je ne l'ai vu reculer devant aucun sacrifice. » Et Monseigneur le Maître, devenu archevêque de Carthage, en Afrique du Nord, a enrôlé Ève et Léona parmi les infirmières de Notre-Dame de Carthage, sans costume ni vue particulier. Il les avait fondées pour le soin des malades et le relèvement de la femme arabe, qui avait bien besoin de relèvement, la pauvre femme arabe. Elles ont passé en Tunisie les hivers de 1921 à 1924. Et en août 1926, Ève a eu à Thuyères, dans son village, la visite de Robert de Flers, le fameux auteur, dont elle avait interprété tant de pièces. « Dans son visage pâli, dit-il, les yeux ont gardé une ardeur qui s'est faite ferveur. » Lui qui se moquait d'elle quand elle est entrée, pas en religion, mais entrée dans le monde spirituel, pour y vivre. Et il ajoute, ses yeux regardent plus loin, plus haut, et les mains très amaigries se joignent comme d'elles-mêmes, pour la prière, évidemment. Aucune de ses paroles ne s'éloigne de la véritable simplicité. Et il ajoute, chacune d'elles révèle la perfection de sa vie intérieure. Elle est toute modestie et toute humilité. Et alors, Ève Lavallière confie à Robert de Flers que les médecins ne s'expliquaient pas qu'elle fût encore de ce monde. Mais elle lui a dit qu'elle était heureuse de souffrir. Et là, son enfant, sa fille, est revenue vers elle. Et elle a semblé vouloir changer de vie. Mais il a fallu qu'elle s'en sépare à jamais, parce que vraiment, sa fille se conduisait extrêmement mal. Je vous dis pas ce qu'elle faisait, c'est épouvantable. Et il faut le lire dans des livres. Elle était ruinée, Ève Lavallière. Elle avait tout donné. Le curé de Chanceau lui a même ouvert sa bourse et puis elle a refusé l'argent du curé de Chanceau. Elle a éloigné les journalistes le plus possible, même ceux qui lui offraient des chèques en blanc en échange du récit de sa conversion, parce qu'elle aurait fait un bel article. Ils étaient prêts à payer n'importe quel prix. Elle pouvait à peine marcher, à peine manger. Sa bouche, ses yeux étaient infectés. Il a fallu lui arracher les dents. Il a fallu l'opérer à l'estomac. Coudre ses yeux même avec un fil d'argent sans l'insensibiliser. Seuls quelques gémissements ont trahi ses souffrances. Son œil droit a été délivré en juin 1929. Et là, elle pouvait voir un peu. Est devenue Madame Aumain. Sa compagne Léona, là, sa dame de compagnie, habitait la maison avec son mari et continuait tous les deux de soigner Ève Lavallière. Et Ève Lavallière, Léona plutôt,
a raconté à ses camarades d'autrefois que ne peuvent-elles voir les choses comme nous les voyons maintenant. Et Ève Lavallière, elle de son côté, disait « Comment se fait-il que les gens ne peuvent pas comprendre où est le véritable bonheur et qu'on peut servir Dieu dans tous les états? Je prie tant pour elles toutes. Je prie aussi pour toi, ma petite Léona. C'est toi qui m'as le plus aimée. Chante, je t'en prie, pour que je ne m'endorme pas et que je pense à Dieu. J'ai soif d'arriver là-haut, de voir Jésus. Saint-Joseph, mon bon Saint-Joseph, viendra bientôt me chercher. » C'est parce que Saint-Joseph est considéré dans la tradition chrétienne comme le patron de la bonne mort. Pourquoi? Parce qu'il est mort entre Marie et Jésus, entre Jésus et Marie. Et alors, elle ajoute, Ève Lavallière, « Ô Jésus, que doit être le ciel si j'en juge par ces courts instants où mon âme n'est plus de ce monde, où mon bonheur ne peut se définir, car les mots sont finis et mon bonheur est infini. » On voit là une mystique extraordinaire, hein? Cette grande actrice de boulevard, Ève Lavallière. Et au matin du 9 juillet 1929, elle a reçu une dernière absolution et à chaque parole pieuse, elle passait la main sur le crucifix, couché à sa gauche. Et si on l'approchait de ses lèvres, elle le baisait. Et le 10 juillet, c'est aujourd'hui le 10 juillet, à 3 heures du matin, elle était secouée d'un tremblement d'effroi. Elle s'est accrochée à Léona, comme font souvent les gens qui meurent. Mais au son des prières de l'agonie et des litanies de la Sainte Vierge, le calme est revenu. Et quand le prêtre a dit ces paroles que l'on dit au moment de la mort, « Partez de ce monde, âme chrétienne, au nom du Dieu qui vous a créé, au nom » et il n'a pas pu continuer à ce moment-là, fixant de son œil unique la sainte face de Jésus, avec un sourire, elle a quitté ce monde où elle avait tant souffert. C'était un mercredi, le jour de Saint-Joseph, patron de la bonne mort. Selon son désir, Léona l'a revêtue de la robe franciscaine, puis elle a mis sur son cœur, à côté du crucifix, un lys, symbole d'innocence recouvré. Et sur la fosse creusée contre les murs de l'église, une croix qui porte cette inscription, « Ève Lavallière, 10 juillet 1929, vous qui m'avez créé, ayez pitié de moi. » Et maintenant, en terminant le simple récit des 32 religieuses de Bolène qui ont été massacrées en 1794, le bourreau déclarait, c'était durant la Révolution française, le bourreau déclarait quelque chose d'absolument étonnant. « Ces bougresses-là meurent tout en riant. » Ces bougresses-là meurent tout en riant. C'est absolument extraordinaire. Elles étaient 32 religieuses de Bolène. C'était des Ursulines et des membres d'une autre communauté disparue, des sacramentines. Elles attendaient d'être guillotinées. Ce que fut leur vie au long de ces jours a été relaté par deux d'entre elles qui ont été épargnées du massacre. Elles ont été écrouées à la prison d'Orange et dans le sud-est, là, près d'Avignon-Orange, dans le Vaucluse. C'est là qu'il y a un grand amphithéâtre romain. Hein. Et c'est très beau, Orange, il faut voir ça. Hein. Elles ont refusé de prêter le serment, qui était obligatoire, hein. Un serment qui était contraire à la foi. Et puis, contraire aux vues des religieuses, et alors, elle s'était organisée une espèce de vie conventuelle. Alors, de 5 à 9 heures, elle faisait oraison sans arrêt. Ensuite, il y avait l'office, elle récitait les prières de la messe, puisqu'il n'y avait pas de prêtre. Elle faisait des litanies, des prières pour la bonne mort. Alors là, à 9 heures, il y avait l'appel de celles qui passaient au jugement, et celles-là partaient sereines. Celles qui restaient demandaient, pour leur sœur, l'assistance du Saint-Esprit. Elles invoquaient le Saint-Esprit. Elles avaient une foi profonde et trinitaire. Ce n'était pas des sœurs avec des petites dévotions à l'eau de rose. Non, non. Le Saint-Esprit. Elles priaient énormément. Jusqu'à ce que le roulement du tambour annonce le départ pour la guillotine de celle qui était partie. Alors là, les prisonnières, celles qui restaient, récitaient les prières des agonisants. Puis elle rendait grâce pour celles qui les avaient précédées au ciel. Puis elle chantait le Te Deum. Faudrait que je vous lise le Te Deum, ce chant magnifique qu'on chantait autrefois dans l'église. On chante presque plus ça. Alors ça a été comme ça du 7 au 26 juillet 1794. Alors quand il y avait la sentence de mort, groupée avec d'autres condamnés dans le théâtre antique d'Orange, où elles étaient, elles ne s'occupaient que de réconforter ceux qui se désolaient, ceux qui avaient peur de mourir. Alors on a pu voir sœur Pélagie comme ça sortir de sa poche une boîte de dragées, n'est-ce pas, des petites amandes couvertes de sucre durci, qu'on connaît bien, hein? Puis elle distribuait ça aux gens qui avaient peur, puis elle disait, ce sont les dragées de nos noces! Parce qu'on distribue ça aussi au mariage, aux fiançailles. Hein. Et puis, il y avait sœur Saint-Bernard qui, montant l'échafaud, avait répondu au cri de « Vive la nation !» Et elle avait dit « Oui, vive la nation qui me donne la joie du martyr !» Ces sœurs étaient extraordinaires. Il y avait la jeune sœur sœur Marthe du Bonange, drôle de nom, Marthe du Bonange. Elle était fort jolie, puis au dernier moment, un bourreau lui a offert de lui sauver la vie si elle voulait l'épouser. Mais elle a répondu, fais vite ton devoir, car je languis d'amour pour mon époux céleste. Et la sœur de l'Annonciation, elle, c'est son nom, était absente au moment de l'arrestation, elle est venue spontanément rejoindre ses sœurs, disant que son devoir était de mourir avec elle. Alors l'année qui suivit tous ces crimes épouvantables où toutes les sœurs sont mortes, mais les membres du tribunal d'Orange qui les avaient condamnés se sont trouvés à leur tour condamnés à mort et trois d'entre eux sont morts en vrais chrétiens car ils se souvenaient de l'exemple de ces sœurs-là. Ils ont exprimé leur remords, ils ont récité le Miserere, c'est-à-dire, comme vous savez, le psaume 50. Faudrait que je vous lise aussi.